Oh, où il est maintenant, 4h42, 6h42, ici à Paris. Afrique Matin à suivre, reportage à Yagoua, c'est dans l'extrême nord du Cameroun, ville à la frontière avec le Tchad. Notre envoyé spécial a visité une petite production de riz tenue par des femmes. Le riz, c'est la spécialité de la ville. On a rendez-vous ensuite avec Tirtan Karchanda et l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo pour son roman qui raconte la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Ce sera la chronique Chemin d'écriture. Mais tout de suite, les sports. Les sports avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, cette question, qui sera le premier champion du monde de Maracana, grande finale aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
Le pays hôte et le Bénin qui se disputeront la suprématie internationale dans cette discipline de foot à 6 contre 6 et sans gardien de but. Affiche 100% africaine donc. En demi, les Guépards ont pris le meilleur sur le Togo voisin. Match nul 2 partout à la fin du temps réglementaire. Les Béninois se sont imposés au tir au but. Ils ont fait preuve de caractère, comme le souligne l'un des cadres de cette sélection, Alain Farel à Tchad.
Par deux fois, le Togo nous a menés, on n'est toujours pas revenu au score. Même après le premier tireur qui a raté, on avait toujours le mental et on avait foi en notre équipe. Nos coachs nous ont préparé mentalement pour dire cette victoire, c'est au mental, puisque Togo, c'est une très bonne équipe et c'est le voisin.
Et comment vous voyez la finale contre la Côte d'Ivoire ou bien le Canada?
On prend match par match, on respecte toujours les adversaires. On va passer à la séance vidéo, voir comment l'adversaire évolue et puis je vous promets une chose, notre objectif c'est la médaille d'or.
Propos recueillis par Molamine Sissavané, le Bénin défiera donc la Côte d'Ivoire en finale. Le pays organisateur a impressionné face au Canada, humilié 6-0.
En rugby, Victor, un nouveau sélectionneur à la tête du Cameroun. On a appris sa nomination cette semaine.
Olivier Missoup, 43 ans, est un ancien troisième ligne qui a longtemps joué dans le prestigieux championnat de France à Toulon ou encore au Stade Français Paris. Et il a convaincu l'ancien joueur du 15 de France, Maxime Mermoz, vice-champion du monde 2011, d'intégrer son staff. Objectif, structurer une sélection en reconstruction, reléguée très loin dans le classement mondial. Et pour cela, Olivier Missoup compte s'appuyer à la fois sur les joueurs qui évoluent au Cameroun, mais aussi sur des binationaux comme lui qui joue en France. Le nouveau sélectionneur du Cameroun qui s'est confié à RFI, on l'écoute.
Je pense qu'un jour viendra où il y aura des batailles entre les sélections africaines et l'équipe de France pour aller récupérer un joueur. J'espère qu'un jour ça viendra, comme on peut le voir sur le foot. Parce qu'on a beaucoup de... Moi, j'ai halluciné un peu avec le nombre de joueurs qui avaient des origines camerounaises. Il est en pleine évolution, le rugby africain, mais on a besoin de toute la diaspora africaine, que ce soit algérienne, marocaine, tunisienne, camerounaise, sénégalaise, ivoirienne et autres qui jouent dans les plus grands championnats pour venir aider. Et je pense qu'il faut qu'on tende vers là. Voilà. Mais ça, c'est la responsabilité de tous ces joueurs-là, que moi j'appelle avec la sélection camerounaise et ceux qui sont appelés avec les autres sélections. Voilà, et de prendre leurs responsabilités et à tous ces joueurs d'avoir confiance en ce qu'ils sont et puis de se challenger pour construire quelque chose avec le Cameroun, bien sûr, mais aussi avec les autres nations. Voilà.
Et la première échéance du mandat d'Olivier Missoup, c'est le mois prochain au Maroc avec la première phase de la Coupe d'Afrique. Toujours au sujet du Cameroun, Xavier, en cyclisme, le Grand Prix Chantal Biya s'est achevé hier à Yaoundé. Victoire finale du Belge Wesley Van Dijk devant l'Algérien Yassine Hamza. Le premier Camerounais, Rodrigue Nounawe, termine 9e.
Et le Cameroun, on y retourne dans une minute. Merci à Victor Missistrano, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce dimanche 6 octobre, ce sont les informations faisant état de frappes israéliennes sur des hôpitaux au Liban qui sont inquiétantes, c'est ce que dit le gouvernement britannique. Ce matin, l'agence de presse nationale libanaise ANI fait état de 5 frappes israéliennes visant la banlieue sud de Beyrouth et ses environs. 4 sont qualifiées de très violentes. De nombreux habitants fuient dans la nuit les zones touchées. Le chef d'état-major israélien affirme, lui, sa détermination a frappé, je cite, sans répit le mouvement armé libanais Hezbollah. Le conflit au Proche-Orient qui s'invite au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Le président français demande l'arrêt des livraisons à Israël d'armes servant à Gaza. Emmanuel Macron critique aussi les opérations israéliennes au sol au Liban. Honte à la France et aux Occidentaux qui appellent à l'embargo, réagit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et direction donc maintenant l'extrême nord du Cameroun, la ville de Yagoua, à la frontière avec le Tchad, ville connue pour son riz depuis les années 1960. C'est une société publique qui gère l'essentiel de la production. Mais depuis, des petites unités de transformation ont vu le jour en parallèle, souvent tenues par des femmes qui s'occupent du tri, du vannage, c'est-à-dire de séparer les grains vides et des grains propres à la consommation, et de la mise en paquet. Reportage de Richard Onanena.
Sous un hangar à l'abri du soleil, souvent ardent de Yagoua, Cynthia, une jeune mère de 22 ans, et ses collègues ne décollent pas les yeux des plateaux de riz posés sur leurs genoux. Avec leurs doigts habiles, elles retirent les impuretés et les mauvais grains de riz dans une ambiance bon enfant.
Dans le travail, là, on fait par jour, là, on nettoie d'abord la place, on met la bâche, on fait sortir le banc après le plat, on nous partage le sac. On commence à travailler. Oui, on trie le riz.
Cet après-midi, dans cette unité artisanale Riz Yagoua, depuis le matin, certaines ont déjà trié jusqu'à 2 sacs de 50 kg de riz. Cela vaut 1600 francs CFA, à peine plus de 2 euros.
Deux fois, on peut trier 1,5 sac ou bien 2, parfois 3 même, s'il y a le travail. Le sac peut payer 600, okay. Demi paye 300. Si c'est le... brusure, on peut 400, le sac c'est à 800 par jour.
C'est à l'aide d'un gros ventilateur que le riz est vanné. Dernière étape avant l'empaquetage. Là encore, ce sont des jeunes femmes comme Narmada qui sont à l'œuvre.
On ventile pour que ça doit être propre. Et puis là-bas, ils amènent ici, après on vend ça. On vérifie encore si c'est propre, on met dans le sac 25 kilos, les 5 kilos, le 1 kilo et dans les 100 kilos.
Ça passe bien par ici.
À Yagoua, où la culture du riz est pratiquée depuis les années 60, ce sont des métiers qui sont réservés exclusivement aux femmes. Faute de moyens, presque tout se fait à la main. John Chimitsu, chef d'unité de production.
Le travail de tri, de vannage, c'est spécifiquement les filles qui le font.
Dans cette zone, vous produisez combien de sacs par jour?
Nous produisons environ 1 à 2 tonnes par jour. Une tonne, ça revient à 40 sacs de 25 kilos.
Ce riz de Yagoua est réputé pour son goût et son parfum particulier. Il est vendu un peu plus cher que le riz importé dans les grandes villes du pays. Richard Onanena, de retour de Yagoua, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera en République démocratique du Congo, précisément à Kisangani, à la grande ville du nord de la RDC, où la pirogue, vous l'entendrez, occupe une place importante aujourd'hui encore dans les déplacements quotidiens des habitants de la ville. À 6h50 ici à Paris, on parle littérature et Côte d'Ivoire. Tout de suite, chemin d'écriture avec Tirtan Karchanda et Julien Coquel-Rouem.
Une poète, romancière et peintre, Véronique Tadjo, a une vingtaine de titres à son actif et elle est à l'honneur ce dimanche dans Chemin d'écriture à l'occasion de la sortie cet automne de son nouveau roman Je remercie la nuit. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquel-Rouem.
C'est une grande dame des lettres africaines qui est au programme de votre chronique ce dimanche.
Avec une œuvre composée de romans, poésies, livres pour la jeunesse, la franco-ivoirienne Véronique Tadjo est en effet une auteure majeure de la littérature postcoloniale de langue française. Son nouveau roman est campé en pleine crise post-électorale qui a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et dont l'impact perdure dans l'inconscient collectif. Véronique Tadjo.
C'est un moment qui a été très important puisque on a assisté à un effondrement total du processus démocratique. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer comment cette crise-là a eu un impact direct sur des gens.
Que raconte ce roman, Tirtankar ?
Il raconte l'histoire d'une amitié singulière entre deux jeunes filles dont la guerre civile a fait basculer la vie dans le chaos. Flora et Yasmina, âgées d'une vingtaine d'années, sont étudiantes à l'université de Cocody, à Abidjan, quand la crise politique éclate. Les deux filles s'entendent à merveille, malgré leurs différences sociales et politiques. Mais la rentrée universitaire 2010, sur laquelle s'ouvre ce roman, se révèle être la rentrée de tous les dangers, avec l'éclatement de violences jusque dans leur campus universitaire. Cette guerre fratricide aura pour conséquence de séparer les deux amis et de les transformer à tout jamais. Véronique Tadjo.
J'ai voulu avoir deux personnages qui, sans être des révolutionnaires, elles ont quand même cette volonté de faire entendre leur voix. Et il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes. Elles ont une grosse dose de naïveté. Une naïveté qui, en même temps, est ce qui les qualifie et les rend beaucoup plus prêtes à voir l'autre côté des choses.
Et Thierry Tancart, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce roman ?
Il me semble que cette originalité est à chercher moins dans sa structure narrative que dans son écriture. Je remercie la nuit s'inscrit dans l'écriture sophistiquée de Véronique Taggio, mêlant analyse fine et métaphore de la condition humaine. Dans la deuxième partie du roman, qui se déroule à Johannesburg, en Afrique du Sud, où Flora se réfugie, la métaphore dominante est celle de la peinture que pratique Zolile, l'amoureux sud-africain de la jeune femme. Pour le sud-africain, l'art est un répit, une poussière d'humanité, une note de jazz, une déclaration d'amour, selon les mots de Véronique Taggio. Des qualificatifs qu'on pourrait appliquer au nouveau récit de cette dernière, qui est lui aussi une déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire, voire une invitation à surmonter ces mots. Véronique Taggio.
Je sais qu'un livre ou un recueil de poèmes ne peut pas tout changer, ne peut pas faire la révolution, mais elle permet de continuer à réfléchir sur des événements ou des sentiments ou des émotions qui continuent à nous toucher. On n'a pas encore évacué toutes les peurs et les douleurs qu'on a eues au moment de la crise post-électorale de 2010-2011.
Premier ouvrage de fiction sur la crise post-électorale, le roman de Véronique Taggio est aussi une invitation à d'autres romanciers à s'emparer à bras-le-corps de ce sujet. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de l'absence du point final à la fin du récit. Ce n'est sans doute pas un oubli.
Je remercie La Nuit par Véronique Taggio, publié aux éditions Mémoires d'Encrier et dans Chemin d'écriture sur RFI. Merci Thierry Tancart Chanda.
C'est moi qui vous remercie.
Thierry Tancart Chanda avec Julien Coquelroem. À 100% création ce matin entre la Tunisie et le Japon avec Maria Afonso et la créatrice de mode Anissa Medeb.
Pour une de mes collections récentes, le point de départ, c'était le motif aile d'hirondelle qu'on trouve beaucoup dans les céramiques du 19e siècle, donc on retrouve beaucoup dans la Médina. Très graphique, très géométrique. J'ai voulu faire dialoguer ça avec les traditions japonaises d'origami, de pliage et de kirigami, de découpe. J'ai beaucoup travaillé les découpes laser sur les vêtements et aussi les pliages.
Anissa Medeb, créatrice franco-tunisienne et fondatrice de la marque Anissa Aïda.
Anissa, c'est éponyme, c'est mon prénom. Et Aïda, c'est un hommage à ma grande sœur qui nous a quittés en 2010. Plus jeune, c'était moi qui adorais dessiner, faire des croquis. Mais par contre, elle me disait souvent « j'aimerais bien que tu dessines une robe comme ci, un chemisier comme ça, une saharienne ». Et on allait voir des couturières ensemble et on créait les vêtements. Donc on avait le projet de lancer la marque ensemble. Comme elle nous a quittés trop jeunes, j'ai décidé de lancer la marque pour elle.
Née à Paris de parents tunisiens, Anissa Medeb grandit entre Tunis et Paris. Passionnée de mode depuis son enfance, elle fait des études en design de mode entre New York et Londres. En 2016, elle visite Tokyo et tombe amoureuse du Japon. Inspirée par l'esthétique du pays du soleil levant et la Tunisie, la créatrice franco-tunisienne lance sa marque Anissa Aïda en 2016. Une marque présente aussi bien à Tunis qu'à Tokyo. Anissa Medeb aime mettre au goût du jour le patrimoine tunisien avec ses pièces signatures. Celle-ci rend hommage à ses racines familiales et revisite le patrimoine textile en s'appuyant sur les savoir-faire de l'artisanat tunisien.
Le tissage artisanal de la soie, c'était surtout utilisé pour des vêtements traditionnels comme des jebas pour hommes. Il y a très peu de gens qui portent encore ces vêtements pour les cérémonies, donc les savoir-faire se perdent et ma mission, ça serait de contribuer à pérenniser ces savoir-faire.
Consciente de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement, la créatrice collabore avec des artisans locaux.
Je vais allier les références des broderies traditionnelles de ma grand-mère avec la technique du sashiko, une technique de broderie japonaise. J'aimerais décliner ces motifs de manière plus graphique, les retravailler.
Retrouvez l'univers d'Anissa Aïda sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
RFI.
Et avant le journal dans 3 minutes sur RFI, c'est en musique que l'on clôt cette édition d'Afrique Matin avec en duo Michel Jonas et Ben L'Oncle Soul pour le titre Joueur de blues.
Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin ou un bon point si c'est facile.
De blues, Michel Jonas et Ben L'Oncle Soul. Ce matin, le choix de la playlist RFI. Merci à Thierry Le Saint qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Restez avec nous. Dans 30 secondes, vous avez rendez-vous avec Julien Coquel-Roem. C'est RFI Matin qui commence. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Géopolitique.
Le 7 octobre 2023, des milliers d'assaillants du Hamas venus de Gaza parvenaient à franchir la barrière de sécurité et à pénétrer en Israël sans rencontrer de résistance. L'agression fut d'une violence et d'une sauvagerie inouïe et a plongé le pays dans un état de sidération. La guerre, aussitôt déclarée en riposte par Israël, se poursuit et la situation demeure catastrophique.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.